Le message de ce matin sera la suite du message que vous apportez les anciens il y a un mois sur le thème de Dieu. On vous avait dit, mais on va vous le redire quand même, parce que c'est plus simple, puisque nous c'est bien dans notre tête, mais on va peut-être vous le redire aussi. On a donc décidé une fois par mois d'apporter un message sur les bases. Tu peux juste l'enlever, c'est très bien. Voilà, merci. Ça va la partie de Philippe après. Donc les anciens ont décidé de vous apporter un message où on reprend toutes les bases de la foi. Et donc le premier message est sur Dieu, le deuxième sera sur Jésus, le troisième sur le Saint-Esprit. Et puis comme vous avez une petite mémoire, on vous donnera la suite après. Et comme ça vous resterez aussi dans l'attente. La dernière fois, donc au début du mois passé, John et Pierre ont apporté deux points importants sur Dieu. John a parlé de ce qu'était Dieu, donc de son infinité, de sa personnalité, intelligence, sentiment, volonté, liberté, de son immuabilité, ça c'est un mot compliqué, immuabilité, c'est-à-dire Dieu est un Dieu qui est présent complètement dans l'espace et dans le temps, c'est le même hier, aujourd'hui, demain, de son omniscience, Dieu connaît tout, de son omnipotence, Dieu crée tout et Dieu peut tout, de son omniprésence, Dieu est présent partout et toujours. Et puis enfin, que Dieu était proche de toute chose et qu'il était en toute chose. Et puis Pierre a développé un point qui était important, c'était de dire que ce Dieu qui était un Dieu qui paraissait caché, ce Dieu s'était révélé aux hommes. Et ce Dieu caché était devenu un Dieu qui se révélait et qu'il s'était fait connaître, qu'il s'était donné à connaître aux hommes. La révélation chrétienne donc était que Jésus-Christ était la personne qui s'était révélée à l'homme, en tant que Dieu. Dieu rend l'homme capable de le percevoir. Et la conclusion, c'était que nous avions à chercher Dieu, qu'il était important de chercher Dieu, et qu'il n'y avait pas d'excuse pour cela, que nous étions trop petits, par exemple, ou qu'il était trop grand. Voilà pour le résumé. Ce matin, nous allons approcher avec Philippe les deux autres points que nous avions décidé de traiter. Et je traiterai d'abord, ça va être un peu plus technique peut-être, toutes les idées erronées qu'on pourrait avoir contre Dieu. Toutes les grandes doctrines qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait connaître contre Dieu. Et puis Philippe, après, vous parlera, vous avez déjà eu le titre, de ce Dieu qui est 3 fois 1. Alors, dans les doctrines, c'est des grands noms qu'on entend souvent et puis on ne sait pas quoi mettre derrière. Le premier nom, c'est tous des noms compliqués. Le premier nom, c'est l'agnosticisme. C'est compliqué, hein, l'agnosticisme. Déjà à écrire et puis à prononcer, je ne vous dis pas. L'agnosticisme, c'est une doctrine qui dit que les éléments, tous les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle ne peuvent pas permettre de savoir s'il y a un Dieu ou s'il y a des dieux. Que cette question soit abordée d'une façon scientifique ou non, l'agnostique dit « ben non, de toute façon on ne peut pas prouver, personne ne peut prouver ». La vérité pour l'existence de Dieu, c'est en dehors de tout ce qui existe de lois scientifiques, rationnelles, physiques, matérielles, que nous avons dans notre univers pour décider toutes les choses et pour connaître. Toutes les preuves prétendues donc par nous chrétiens sont de toute façon insuffisantes. Mais pour l'agnostique, l'existence de Dieu est improuvable, mais l'inexistence de Dieu est aussi improuvable. Donc la notion de Dieu, voilà, ça s'arrête là. Alors non, très clairement, nous l'affirmons ici, Dieu peut être connu. Il faut chercher à le connaître. Si vous voulez connaître quelque chose, vous savez quelque chose du monde, vous savez très bien comment faire pour le connaître. Vous allez le chercher et vous allez le trouver. Voilà, c'est vous chercher mal. Mais vous allez le chercher, vous allez le trouver. C'est la même chose ici. Et je donnerai juste un verset pour illustrer ça. Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait juste entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Donc ce Dieu qui a été recherché par Job, Job l'a trouvé et l'a vu. Agnosticisme, premier point. Deuxième point, le déisme avec un D. Parce qu'après, il y aura le théisme. Vous verrez, ce n'est pas la même chose. Le déisme avec un D. On avait près d'ici un philosophe, à Ferney, Voltaire, et qui disait la chose suivante, c'était le parfait déiste. Il disait cette superbe phrase, « L'univers m'embarrasse, c'est en vers. » Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. C'est beau, hein ? L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. C'est dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Les déistes rejettent la plupart des événements surnaturels que nous connaissons et que nous attestons, les prophéties, les miracles, qui pour nous affirment en général que Dieu existe et qu'il a vraiment tout mis en place et qu'il suit cette place. Non, le déiste va dire, ben non, Dieu a remonté, en fait il a créé le monde, oui on est d'accord, mais il a remonté comme un gros réveil. Alors, en faisant ça devant mon ordinateur, je me suis dit que pour beaucoup ça voulait rien dire ça. Parce qu'on ne remonte plus de réveil. Mais si je vous dis qu'il a mis une pile Duracell dedans, là ça va mieux. Il a mis une super pile Duracell dedans. Donc elle est faite jusqu'au bout. Voilà, donc il a remonté une fois, et après il est parti dans son coin tranquille en nous laissant nous dans le monde. Non. Ce que nous chrétiens voyons comme révélation divine, la Bible par exemple, la plupart des déistes le voient comme des interprétations imagées de notre part. En fait, ils ne rentrent pas du tout dans cette démarche. Ce n'est pas pour eux une source d'information qui pourrait être fiable. Il y manque juste la foi en Dieu. Nous l'affirmons, par contre, non. Dieu n'a pas remonté la création comme une horloge. Il est créateur du monde, mais dans lequel il intervient. Et c'était flagrant ce matin de voir combien de fois Dieu, dans la vie de ces hommes, est intervenu ce matin. Moïse, Élie, Marie. Il n'a pas simplement remonté, il a eu besoin des personnes qui sont venues dans le temps pour entrer dans sa démarche. Dieu est acteur, est encore acteur aujourd'hui, et il conduit l'histoire selon son plan précis, en continuant d'y intervenir. Après, il y a un mot qu'on connaît plus. Après l'agnosticisme, le déisme, le polythéisme. Le polythéisme, c'est le fait de dire que, en fait, il n'y aurait pas qu'un Dieu. En fait, il y a tous les dieux qu'on imagine. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors, une des principales doctrines polythéistes, c'est l'hindouisme, par exemple, où il y a un tas de dieux différents. Vous savez que c'est écrit dans la Bible, je n'ai pas le verset en tête, mais il y a même une statue à un endroit dans la Bible, à un dieu inconnu. Un dieu inconnu. Ça veut dire que, pour ne pas oublier de Dieu, on a fait une statue en disant, si jamais quelqu'un, ça ne rejoint pas son dieu, ah ben il se retrouvera dans ce dieu inconnu. C'est un petit peu comme dans le soldat inconnu. Tous les soldats peuvent se retrouver dans ce soldat inconnu. Là, il y a un Dieu inconnu. Non, non. Il n'y a pas de Dieu. 36 dieux, nous l'affirmons. Et la Bible l'affirme, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Il se peut que vous trouviez d'autres dieux ou que vous inventiez, vous les hommes, d'autres dieux. » Mais la Bible nous le rappelle, Éphésiens 4:4, « Il y a un seul corps, un seul esprit. » De même que par votre vocation, vous avez été appelé à une seule espérance, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Donc nous l'affirmons clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un vieux commandement, c'est un des premiers commandements, mais il est encore plus d'actualité aujourd'hui. Agnosticisme, déisme, polythéisme, on arrive au panthéisme. Le panthéisme, c'est que tout est en Dieu, et Dieu est en tout. Dieu n'est pas un être hors de l'univers, avec des attributs, un langage, des actes, mais il est visible dans chaque élément, dans chaque chose, dans chaque matière. Dieu est c'est le caillou, Dieu c'est la fleur. Dieu, c'est le nuage, c'est l'animal. Dieu est donc partout et en tout. Il n'y a pas de différence. Au contraire, nous affirmons que Dieu ne peut pas se confondre avec sa création, puisqu'il en est le créateur. Il en est forcément distinct. La création est création. Elle n'est pas divine elle-même. Elle n'est que création. Rappelons-nous la chute. On en a parlé ce matin. Également de cette chute. La chute où justement Adam et Ève, mettons-les en bloc, Adam et Ève ont voulu gommer cette différence des genres en recherchant à être à l'égal de Dieu. Donc à être Dieu. Ce jour-là, relisez la Genèse, ce jour-là, Dieu a clairement montré qui était Dieu. et qui étaient les hommes et les femmes, ces créatures. Arrivent des doctrines qu'on connaît beaucoup mieux, l'athéisme, on sait ce que c'est qu'un athée, c'est un mot qui nous est plus, beaucoup plus familier, l'athéisme. L'athéiste dit, l'athée ou l'athéiste dit, il n'existe rien dans l'univers qui puisse s'assimiler à ce que les croyants disent être Dieu. Il y a peut-être un peu plus de réflexion là, de finesse. Ça veut dire que tout ce que vous dites, vous, être Dieu, ben, nous n'y croyons pas du tout. Voilà. On ne croit pas qu'il y a un Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous nous dites être Dieu, tout ce que vous dites être la parole de Dieu, c'est un livre, oui. Il parle de Dieu, oui. Bon, comme il y a d'autres livres qui parlent de Dieu, dans lesquels il y a le nom de Dieu. Non, l'athée dit, non, la notion de Dieu, non. Prouvez-moi, moi je ne crois pas. Vous ne pouvez pas me prouver que Dieu existe. Mais bien plus que l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, l'athée va extirper de sa pensée l'idée même de Dieu. Ça veut dire qu'il va l'évacuer totalement. Ça veut dire qu'il va faire fort de se créer un monde où Dieu n'existe pas, où Dieu n'a pas sa place, où même le nom de Dieu n'a pas sa place. Je pense que si on avait un dictionnaire athée, il n'y aurait pas le nom de Dieu dedans. Parce que ça n'a pas de signification. C'est une absence donc, une aspiration. Vous savez quand on fait le vide avec un appareil à vide, ben voilà, on fait le vide en enlevant Dieu du monde, simplement. L'univers n'est fait que de matière, il n'y a pas de Dieu. Donc nous sommes tous de la matière, de matières différentes, hein, mais de la matière, un point c'est tout. Il n'y a pas de Dieu à mettre là-dedans. Alors bien sûr, nous affirmons que nous ne sommes pas que matière, mais corps, âme, esprit. Dieu existe, il est vivant, il est présent dans la pensée de l'homme avec qui il veut entrer en relation. Un Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, c'est une bénédiction, lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient pleinement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose qui se comprend ici. Et puis il y a d'autres choses encore. Philippe, j'espère que je ne te carotte pas trop de temps. Il y a d'autres choses encore. Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, on sait ce que c'est. Adorer. Adorer quoi que ce soit, une image, une idée, un objet. Le christianisme, souvent même, met en opposition avec l'adoration d'un être suprême et le condamne. Hein, vous savez ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un Dieu jaloux. Certaines religions ont même utilisé ce terme d'idolâtrie pour désigner les autres religions par rapport à la leur, en disant « ceux qui ne croient pas comme nous sont des idolâtres ». La Bible nous invite à nous recentrer continuellement sur Dieu et sur Dieu seul. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc on ne peut pas voir Dieu d'un côté et adorer quelque chose d'autre de l'autre. Dieu est un Dieu jaloux qui veut qu'on l'adore lui et lui seul. L'idolâtrie est certainement pour nous, chrétiens du XXe siècle, un des plus grands dangers. Nous sommes dans un monde du visuel, de l'instantané, du progrès fulgurant, de l'offre démesurée de choix qui nous sont offerts partout, choix de vie, de métier, de plaisir immédiat. Rappelons-nous que l'idolâtrie prend souvent, dans notre vie de chrétien, aussi ses formes. Alors que nous devons tout remettre à Dieu. Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc pas pour dire que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et puis je voulais rajouter à cette liste une notion qui n'est pas dans les grandes doctrines, mais qui est une notion qui au fur et à mesure du temps a été tout à fait détournée de son chemin, c'est la laïcité. Et la laïcité c'est le grand mot du XXe siècle, il faut être laïque. La laïcité, au départ, cette notion était juste, elle était pour ôter, pour séparer le pouvoir religieux avec le pouvoir politique, on va dire, le pouvoir temporel. Et c'était juste, ça venait aussi du temps de Diderot et de Voltaire, c'est pas d'aujourd'hui, et on la retrouve déjà dans le temps des Grecs, déjà. C'est dire que la laïcité, c'est pas quelque chose de neuf. Mais malheureusement, on doit bien se rendre compte que depuis des décennies, la laïcité a changé. Et la laïcité s'est fait non pas garder tout ce qui était dans le domaine du public sans Dieu, c'est-à-dire que le pouvoir de la religion ne prenne pas le pouvoir politique. Ça, on peut voir que dans beaucoup de pays, de tous les temps, de tous les bords, ça a été une catastrophe, parce qu'on tombe dans des extrémismes qu'on vit à l'heure actuelle, que vous vivez quand vous ouvrez votre télévision à 20h, par exemple, ou dans les journaux. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps, partout, c'est ce qui se passe encore. C'est donc contre ça que cette idée de laïcité est venue. Par contre, l'idée de laïcité, comme on l'a actuellement dans notre monde moderne, c'est de couper aussi la place de Dieu partout, pour finir. Et la laïcité, en prenant sur le domaine public, où on pourrait l'admettre, on peut la comprendre, mais fait que on l'extirpe aussi du domaine privé. Et on réduit la foi à notre foi, chacun dans notre maison. Et on peut dire que la laïcité, actuellement, est peut-être la chose qui nuit le plus à notre foi, à notre témoignage. Un exemple tout bête, il est difficile actuellement de trouver des salles pour célébrer un culte qui ne soit pas des églises, par exemple. Pourquoi ? Parce que les églises sont frileuses. On a posé avec Philippe la question ouvertement à la mairie l'autre jour, de dire, est-ce que comme un club de foot, vous subventionnerez une association comme l'Église ? On a posé la question. Le gars a répondu, c'est pas vraiment le bord de l'Église, le bord de la politique du village. Sous-entendu, on va rester vraiment que laïque et que laïque. C'était intéressant, mais ils ont dit, on va quand même en discuter. Donc, vous voyez qu'il y a quand même aussi là un abord qui est normal. Mais c'est intéressant dans ce sens. On est d'abord laïque, donc on exclut tout et on ne veut même pas entendre parler du mot. C'est intéressant aussi. Alors, au-delà de ça, il y a les mots, bien sûr, les mots, les vraies notions de Dieu, qui est Dieu, et les mots qu'on entend dans la Bible. Dans la Bible, on a plusieurs dénominations de Dieu, je reprendrai simplement cinq. On a le mot « El », « E-L ». Ce mot, il est environ 250 fois dans l'Écriture. Il y a 64 livres dans la Bible. Vous voyez combien ça fait de fois par livre, hein ? Ça fait quand même quelques fois déjà. Et « El », on le trouve associé... associé à des adjectifs qui le renforcent. C'est le signe depuis les temps anciens, le mot « El ». On le trouve associé « El Elion », Dieu très haut, « El Olam », Dieu éternel, « El Haï », Dieu vivant, « El Gana », Dieu jaloux, « El Shaddai », Dieu tout-puissant. Des mots qu'on connaît parce qu'on les chante, mais qui sont intéressants. Je vous invite une fois à rechercher dans un dictionnaire biblique ou sur un site internet, à rechercher tous ces « L » avec ce qu'il y a derrière. C'est très intéressant sur les qualificatifs de notre Dieu, et soyons-en sûrs, ça intervient dans notre louange aussi. Et puis il y a le mot « Elohim », qui va reprendre un petit peu plus généralement ce Dieu créateur, ce Dieu fort, c'est le Dieu du chapitre 1 de la Genèse, le Dieu de la Trinité, dont Philippe va nous parler ensuite. Et puis le plus employé des mots, c'était le mot « Yahvé ». Yahvé, il est employé 6499 fois dans la Bible. 6499 fois. Vous imaginez ? C'est un mot fort. C'est le mot qui parlait de la divinité du temps du peuple d'Israël. C'est le mot tellement saint qu'on ne pouvait pas le prononcer comme je ne l'ai pas prononcé et qui s'écrivait YHWH et qu'on ne pouvait pas prononcer. Et pour pouvoir ensuite le prononcer, les Juifs ont mis des voyelles dedans. Mais c'est le Dieu saint dont on n'ose pas prononcer le nom. Alors, réfléchissons, quelle chance on a de pouvoir prononcer nous-mêmes, librement encore, le nom de Dieu, et de louer le nom de Dieu. Réfléchissons que dans nos prières, on ne pourrait même pas nous adresser à Dieu si l'on était encore sous cet ancien régime et cette loi qui était dure. Yahvé, c'est ce qui a donné Adonai. Il y a aussi beaucoup d'adjectifs qui vont avec Yahvé. Yahvé Shalom, l'éternel de paix. Yahvé Raa, l'éternel est mon berger. Il a donné aussi ce mot Yahvé, suite simplement à une erreur de recopie de scribe, il a donné le mot Jéhovah. C'est uniquement pour une erreur de recopie. Des lettres qui ont été des voyelles mal formées ou mal mises, qu'on arrive au nom de Jéhovah, mais c'est le nom de Yahvé au départ. Et puis il y a Adonai qu'on connaît, un mot plus fort qui nous rappelle que Dieu est notre Seigneur, notre patron. Adonai c'est aussi le patron. Et que nous nous sommes redevables et soumis comme des serviteurs. Et puis, il y a le Père, ce nom Père, on l'a vu ce matin, on l'a lu aussi. Je voulais vous parler du théisme encore. Ouais, Philippe, ça va, encore. Du théisme, le théisme, donc, c'est ce que nous vivons, c'est ce que notre foi en un Dieu seul, en un Dieu vivant, le Dieu créateur, pleinement maître des événements passés, actuels, futurs, qui intervient et qui agit dans l'histoire du monde, dans notre histoire à nous. Le théisme dit « Dieu est infini, il n'y a pas de limite à son action ». Éphésiens 3,18 « Si le Christ habite en vos cœurs, enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur et de connaître tout l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. » Dieu est un acteur personnel, le théisme l'atteste, un acteur personnel, c'est-à-dire lié à notre personne en tant qu'individu. Exode 20 « Je suis l'Éternel » ton Dieu, ton Dieu. Quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », il s'adresse à chacun de nous, au peuple, mais à chacun de nous. Exode 3,6 « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de tes pères, mais je suis aussi ton Dieu. » Et puis, une des dernières preuves qu'on a dans la Bible, que notre Dieu s'intéresse à nous en tant que personne, c'est peut-être ce verset mystérieux mais tellement beau, de l'Apocalypse 2,17 qui dit au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui aura cru en moi jusqu'au bout, je donnerai une pierre blanche et sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, un nom qui est pour nous, que personne ne connaît sinon celui qui la reçoit. S'il est une preuve de l'amour personnel de Dieu, c'est bien celle-là. Dieu contrôle l'univers, il est le créateur, il tient le monde dans sa main, il est intervenu dans l'histoire. Le déluge, par exemple, nous l'avons vu encore ce matin, les exemples étaient flagrants. Donc nous, chrétiens, nous devons nous en remettre à Dieu, à ce Dieu unique et éternel qui agit dans notre histoire. Psaume 37,5, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, c'est lui qui agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Philippe, je te laisse la suite.
Bonjour à chacune et chacun. En entendant Jean-Paul, je me disais, qu'est-ce qu'on a bien fait de découper le culte qu'on avait prévu en un moment, de le découper en deux, et je crois qu'on aurait même pu le découper en quatre. Il y aurait eu largement assez de matière, tellement notre Dieu est grand et puissant et immense. Dieu, trois en un. L'unité de Dieu et la Trinité de Dieu. C'est vrai que l'unité et la Trinité de Dieu sont des notions, au départ, qui sont difficiles à comprendre. La nature de Dieu fait appel à des notions qui nous dépassent, il faut le reconnaître. Et c'est tout simplement comme ça parce que nous sommes humains. Et en tant qu'être humain, notre capacité de compréhension est limitée, mais aussi parce que notre Dieu, même s'il se fait connaître à nous, il est à un niveau de complexité qui nous dépasse. La réalité et la Trinité de Dieu est un grand mystère, mais pas un mystère au sens de quelque chose d'incompréhensible ou quelque chose de mystérieux. Elle est un mystère au sens où c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. Et en même temps que c'est difficile à comprendre, en même temps cette réalité est très importante pour avoir une juste perception de notre Dieu, de qui il est. Elle peut paraître comme une énigme intellectuelle ou tout simplement comme une contradiction, mais elle est surtout le fruit de la révélation. C'est dans la Bible que nous la trouvons et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour simplement l'apercevoir, l'entrevoir. Et ce n'est que lorsque nous serons dans la présence de notre Dieu que nous en aurons une pleine révélation. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous connaîtrons toutes choses. Alors tout d'abord, l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique, que la nature divine est entière et indivisible. On ne peut pas la découper en morceaux, elle est unique. Deutéronome 4,39 nous dit « Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre, et qu'il n'y en a pas d'autre. » Jean 17,3 nous dit aussi, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais Dieu n'est pas seulement un. Il est le seul Dieu, l'unique Dieu. il n'y en a point d'autre. Deutéronome 6, 4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, ou enfin, le seul Éternel ou l'Éternel seul, l'Éternel unique. Dieu n'est pas composé de parties, il ne peut pas être divisé, il est numériquement un. Mais cette unité de Dieu n'est pas du tout incompatible avec la notion de la Trinité. L'unité de Dieu permet l'existence de distinctions personnelles dans la nature divine. L'unité de Dieu implique que les trois personnes de la Trinité sont de la même essence et de la même nature. Elles ne sont jamais en opposition, elles sont toujours en parfait accord. Elles sont Dieu et elles sont un. » Maintenant, la Trinité de Dieu. Dans la théologie chrétienne, le terme Trinité signifie qu'il y a dans l'unique essence divine trois distinctions connues, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois distinctions sont trois personnes. Chacune des trois personnes de la Trinité possède ses caractéristiques propres et se distingue des autres personnes. Mais en même temps que ces trois personnes sont distinctes, elles sont de même nature, de même essence, et elles sont Dieu. Et pour illustrer cette coexistence de l'unité et de la Trinité de Dieu, je vous propose de nous arrêter un petit moment sur le symbole d'Athanase. Certainement que cela ne vous dit peut-être rien. Alors juste pour vous situer, Athanase était un patriarche d'Alexandrie. Il a vécu au IVe siècle. Athanase a défendu ce que l'on appelle le symbole d'Athanase, mais il n'en est pas l'auteur. Ce symbole a été défini et mis en place avant lui. Et il a vraisemblablement été mis en place au début du IVe siècle, donc très tôt dans l'histoire de l'Église. Et je trouve que sa formulation est intéressante, elle nous aide à mieux comprendre comment s'articulent les trois personnes de Dieu sans rien enlever à son unité. Alors on peut voir, il y a deux choses. Il y a d'une part un petit dessin, voilà. Dans ce dessin, on voit Dieu au centre. On voit donc que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et puis il y a aussi une partie écrite du symbole d'Athanase. Vous allez pouvoir suivre une première partie, puis la fin, je ferai juste que la lire. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Le Père n'a été fait par personne, et il n'est ni créé, ni engendré. Le Fils n'est issu du Père, n'est issu que du Père. Il n'est ni fait, ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères, un Fils, non pas trois Fils, un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'est rien qui soit avant ou après, rien qui soit plus grand ou plus petit, mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité. Mais dans l'histoire de l'Église, la notion de l'unité de la Trinité de Dieu a aussi donné lieu à des compréhensions erronées. D'une part, la croyance en l'existence de trois dieux distincts et donc d'essences différentes, Jean-Paul nous en a parlé tout à l'heure. L'accent est alors mis sur les trois aspects de la Trinité, à tel point que l'unité de Dieu est mise de côté. Et d'autre part, la Trinité étant comprise comme différents modes ou différents aspects de l'être divin, plutôt que trois personnes distinctes. L'accent est alors mis uniquement sur l'unité de Dieu, et la notion de la Trinité est à son tour mise de côté et comme rejetée. Nous le comprenons donc bien, Dieu est à la fois un, unique, seul Dieu, et en même temps il comprend trois personnes. Trois personnes qui agissent toujours en parfait accord, mais aussi trois personnes entre lesquelles un ordre s'établit dans leur manifestation. En effet, le Père vient d'abord, le Fils ensuite, et en troisième lieu, le Saint-Esprit. Le Père est celui de qui viennent toutes choses. 1 Corinthiens 8:6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Le Fils est celui par qui tout est accompli. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Saint-Esprit est celui par qui tout est réalisé. Quand le Jean 16:13, c'est Jésus qui parle, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On peut dire que les trois personnes qui composent la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ne sont qu'un, et ils sont Dieu, le seul Dieu qui existe. Maintenant, voyons un petit peu comment la Trinité nous est présentée dans la Bible. C'est vrai que la Bible foisonne de versets qui révèlent les trois personnes distinctes et en même temps unies qui sont Dieu. Tout d'abord, les indices de l'Ancien Testament. Bien que l'Ancien Testament mette l'accent principal sur l'unité de Dieu, la notion de la Trinité y est cependant bien présente. C'est ce que Jean-Paul nous disait tout à l'heure. Et on commence déjà au premier chapitre de la Genèse, l'emploi du pluriel à maintes reprises. Genèse 1:26, c'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et puis lors de la prophétie de la venue du Messie que nous connaissons bien, on voit que le Christ ne devient pas fils à l'incarnation, mais il était fils avant de venir parmi nous. Ésaïe dit ceci, « Un enfant nous est né, présent, un fils nous a été donné, le passé, et la souveraineté reposera sur ses épaules, le futur. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et voyons maintenant l'enseignement du Nouveau Testament. Tout d'abord, les allusions générales. Au baptême de Jésus, c'est intéressant de voir qu'il y avait les trois personnes de la Trinité en même temps, au même endroit. Et je vous lis Matthieu 3, versets 16 et 17. Alors le ciel s'ouvrit et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Le Père est reconnu comme Dieu, de même que le Fils et le Saint-Esprit sont reconnus comme Dieu. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, le Père est très souvent identifié comme Dieu. Par exemple, en Jean 6, verset 27, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, c'est par lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Le Fils est reconnu aussi comme Dieu. Le fait que Jésus-Christ soit reconnu comme Dieu a été à maintes reprises et mis en doute. En effet, la divinité de Jésus-Christ est très importante parce que c'est elle qui donne toute sa valeur à son sacrifice. Le Fils possède les cinq attributs divins. Il est éternel, il est omniprésent, il remplit tout. Il est omniscient, il connaît toutes choses. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est omnipotent, il est le Dieu puissant. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est immuable, il ne change pas. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Mais Jésus est aussi appelé directement Dieu. En Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Le Saint-Esprit est aussi reconnu comme Dieu. Et c'est intéressant de voir que Jésus lui-même établit une complémentarité entre lui et le Saint-Esprit. Et nous lisons dans Jean 14 au verset 16, Jésus qui dit à ses disciples, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Jésus était le défenseur et le consolateur des disciples. Et il présente le Saint-Esprit comme étant de la même nature que lui, à un niveau d'égalité avec lui, mais avec un rôle complémentaire au sien. Un autre verset dans le même chapitre nous aide à mieux comprendre cela. Jésus parle à ses disciples, il leur dit au verset 26, « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On comprend que non seulement Jésus et le Saint-Esprit sont au même niveau dans la Trinité, mais étant de même nature et de même essence, ce que l'un commence, l'autre le continue et l'achève. Le Saint-Esprit a comme Jésus les mêmes attributs que Dieu. Il est éternel, omniscient, omnipotent, etc. Mais il est aussi actif dans la création. C'est Job qui nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Le Saint-Esprit est aussi présent dans la régénération, dans le salut. C'est Jésus qui le dit à Nicodème. En Jean 3, 5, « À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et je termine par une brève conclusion. C'est vrai que si le mot Trinité n'est pas présent dans nos Bibles, parce que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, hein, mais cette notion de la Trinité, par contre, elle est bien présente. Rappelons-nous l'ordre que Jésus nous donne à Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre ces deux notions de l'unité de la Trinité de Dieu, il faut comprendre qu'il y a en Dieu trois personnes, mais une seule essence et un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et je partage maintenant un dernier point avec vous. J'espère que vous n'avez pas peur de faire un petit peu de gymnastique de l'esprit. Nous allons poser une hypothèse qui n'est pas vraie, pour mieux comprendre quelque chose qui est vrai, l'importance de la Trinité pour nous. Si la Trinité n'existait pas, si elle n'existait pas en Dieu, il n'aurait pas pu y avoir d'incarnation. Dieu n'aurait pas pu envoyer son Fils s'il n'y avait pas la Trinité. Il n'y aurait pas non plus de rédemption. Par conséquent, pas de salut non plus. Tout simplement parce que personne n'aurait pu servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Quand je pense à cela, au fait que le salut découle de la nature même de Dieu, quand je pense à cela, moi je tombe à genoux et je dis vraiment « Sois loué, sois béni Seigneur ». Ton amour, je ne peux pas le comprendre complètement, il me dépasse, mais je peux le recevoir, je le reçois tout simplement comme un enfant. Et je vous invite à prendre maintenant un petit temps de recueillement, de méditation, sur ce que représente pour nous, pour moi, pour toi, sur ce que représente cette notion de la Trinité avec toute la manifestation de l'amour de Dieu qu'elle permet par le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je terminerai ce petit moment par une prière. Oui Seigneur, nous te disons merci pour la révélation que tu nous donnes de ta personne. Merci parce que malgré l'énorme différence qui existe entre d'une part ton infinité et ta grandeur et d'autre part notre petitesse et nos limites, tu nous aimes et cela nous bouleverse. Merci Seigneur parce que, en nous penchant sur ta personne, nous redécouvrons toute la grandeur et la puissance de ton amour. Et face à cet amour, nous nous courbons devant toi et nous renouvelons notre engagement pour toi. Donne-nous Seigneur de laisser dans notre vie toute la place à ton esprit, afin que ton nom et ton salut se répandent dans cette région et que toute la gloire te revienne, à toi seul, qui est l'unique et le seul vrai Dieu. Sois loué, sois béni et glorifié à jamais, Seigneur. Amen.
Voilà pour ce deuxième volet sur Dieu, en espérant qu'il ne nous ait pas paru hyper compliqué. Je veux juste vous lire un tout petit passage de Voltaire qui me semble super intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dedans et je trouve que c'est une analyse qui est juste et qu'on s'y retrouve drôlement. Voltaire parle donc de cet homme qui croit, ce croyant, comme nous le voulons l'être, nous, et dit la chose suivante. C'est un homme fermement persuadé de l'existence d'un être suprême, aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres étendus, végétant, sentant, réfléchissant, qui perpétue leur espèce, qui punit sans cruauté les crimes et récompense avec bonté les actions vertueuses. Réuni dans ce principe avec le reste de l'univers, il n'embrasse aucune des sectes qui toutes se contredisent. Sa religion est la plus ancienne et la plus étendue, car l'adoration simple d'un Dieu a précédé tous les systèmes du monde. Il parle une langue que tous les peuples entendent pendant qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il a des frères depuis Pékin jusqu'à Cayenne. Et il compte tous les sages pour ses frères. Il croit que la religion ne consiste ni dans des opinions d'une métaphysique incompréhensible, ni dans de vains appareils, mais dans l'adoration et dans la justice. Faire le bien, voilà son culte. Être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le Mahométan lui crie « Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage de la Mecque. Malheur à toi, lui répond le prêtre, si tu ne vas pas en voyage à Notre-Dame de Lorette. » Il se rit de Lorette et de la Mecque, mais il secourt l'indigent et il défend l'opprimé. Voilà, comme conclusion à ce point. Vous pouvez retrouver, je vous invite à le faire, à faire cet exercice, à retrouver les messages sur le site de l'Église. À vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit, et aller repiocher dedans, rechercher. Et je pense que si vous voulez aussi le script, on peut facilement... je sais pas, on a prévu de le mettre à disposition. On avait prévu. Non, mais ça peut se faire, ou on peut en tout cas vous donner des photocopies si vous recherchez des explications. On va en arriver aux annonces pour cette semaine. Lundi, répétition chorale, c'est juste, 20h30 demain, donc répétition chorale pour le culte en commun, le culte de la pastorale, à l'église de Saint-Genis, à 20h30, donc. Mardi 6 mars, de 14h à plus tard, j'ai les heures moi, dans mon fichier, c'est pour ça que je lisais comme ça, à 14h30, étude biblique des aînés. Samedi soir, on a la cellule de Prévecin chez Manuel et Rebecca. Mardi soir. Excusez-moi, c'était mardi, ma langue a fourché. Merci de me reprendre. Mardi, cellule de Prévecin chez Emmanuel et Rebecca. Jeudi, cellule de Gex chez Oli et Daniela. Pierre, vous ferez suivre pour Collonges. Pour Collonges, s'adresser à Pierre. Voilà. Samedi, le groupe de jeunes ici. Dimanche, notre culte. Et puis, on veut aussi déjà penser au week-end qui est après. Donc, le 18 mars, 17-18 mars, c'est le week-end de la pastorale. Le samedi soir, pensez-y dans la prière aussi, il y aura une soirée spéciale pour les jeunes, organisée avec tous les jeunes des églises pastorales, et notre culte le dimanche 18 mars. On aura besoin de monde pour un coup de main le samedi pour la mise en place de la salle, on vous dira ça le dimanche d'après. Et puis déjà vous annoncer l'Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 29 mars. L'Assemblée Générale, c'est important de réserver ce jour, et si vous ne pouvez pas y venir, par exemple dans le couple, si un doit rester pour les enfants, pensez à vous faire représenter avec le pouvoir qui vous sera remis. Donc le jeudi 29 mars, on en reparlera d'ici là. Dans les temps qui viennent aussi, il y a encore des places pour un cours « Elle et lui » qui aura lieu, comme les cours « Elle et lui » qui ont précédé, en commun avec différentes églises à Echenevet. Donc c'est un cours pour les couples, c'est un super bon temps passé pour les couples ensemble. D'abord c'est une soirée à deux. Ça, c'est super, en tête à tête. Et puis, c'est intéressant de réfléchir à son couple, de repartager, que vous soyez un couple qui discute beaucoup, un couple qui ne discute pas du tout. C'est là une bonne occasion de se retrouver. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous venez vers un des anciens, on vous donnera les coordonnées. Ça va redémarrer tout prochainement. Des nouvelles de nos malades. On a Hélène qui est là. On se réjouit. Hélène, avec un grand sourire ce matin. On se réjouit de te voir. Hélène m'a dit qu'elle remontait la pente. Alors, faites comme moi. Dites-lui, remonte-la doucement, Hélène. Il y a le temps pour arriver en haut, Hélène. Voilà. En tout cas, on veut prier pour vous, être reconnaissant que vous soyez de nouveau là, tous les deux aussi, parce que Brian était un petit peu triste tout seul, c'est vrai, le dimanche ici. En tout cas, on se réjouit, on va continuer à prier pour vous. Continuez à prier pour Guylaine aussi. Ça se passe pour le mieux, Jacques? Je vois les deux Jacques qui font oui, alors c'est bon. Merci en tout cas à toute notre affection encore à Guylaine. Et puis voilà, je n'ai pas d'autres nouvelles de personnes malades. Annelise était malade la semaine passée, on l'a dit aussi. On veut penser aussi aux personnes qui sont fatiguées. Merci aussi à ceux qui nous visitent ce matin. On est content d'avoir partagé ce temps avec vous. Je vous invite à vous lever. Je vous lirai encore un dernier verset de la parole de Dieu. C'est un peu une conclusion de ce qu'on a lu ce matin, mais c'est une bénédiction vraiment à s'approprier, vraiment, ça parle à notre cœur. Hein. C'est à la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens. « Si le Christ habite en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre, on l'a lu, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. » À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà, de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun.